Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et mettez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chères femmes, bien chers amis, nous en sommes à l'étude du sacrement de l'ordre, donc traité qui fait partie du supplément de saint Thomas d'Aquin. Nous en sommes à la question 37, article 2. Sur le polycopier, vous avez pas mal de choses avec les textes directs de saint Thomas d'Aquin à partir de la page 176. Alors, article 2, la question 37 du supplément, compte-t-on 7 ordres? Donc, 7 étapes, si vous voulez. D'abord, une étape d'introduction, qui n'est pas un ordre, la tonsure. Et ensuite, les 7 ordres. Alors, la tonsure, ils ont quelques mots sur la tonsure. Par la tonsure, c'est l'évêque qui va couper 7 mèches de cheveux de celui qui va être tonsuré. En disant en même temps, c'est vous Seigneur qui me rendrez mon héritage, le Seigneur est la part de mon héritage et de mon sort, c'est vous Seigneur qui me rendrez mon héritage. Et c'est une consécration, qui n'est pas une consécration définitive, c'est-à-dire quelqu'un qui est tonsuré peut éventuellement quitter le séminaire s'il y a une raison grave, mais il rentre dans la cléricature, et comme il rentre dans la cléricature, ça lui donne le droit de se faire appeler monsieur l'abbé. Il n'y a pas en français de distinction entre les titres selon les différents ordres parmi les 7 ordres. Donc on appelle monsieur l'abbé tous ceux qui sont dans la cléricature, depuis le simple tonsuré jusqu'au prêtre. L'évêque a un titre spécial, monseigneur. Donc portier, lecteur, acolyte, exorciste, sous-diaconat, sous-diacre, diacre et prêtre, on les appelle monsieur l'abbé. S'ils sont des religieux qui sont prêtres, on les appelle mon père. Alors, le rite de la collation de la tonsure remonte au 6e siècle, et comme cérémonie séparée du premier ordre mineur, au 8e siècle. Donc, je ne vais pas avoir le temps de vous lire toutes les prières pour l'imposition des ordres, mais je vais vous lire les principales, parce qu'elles sont très peu connues, elles sont magnifiques. Pour ceux qui ont un missel bien complet, vous avez beaucoup de choses à la fin du missel dont le Lefebvre, il y a toutes les prières, vous pouvez les relire avec grand intérêt. Voilà les prières pour la tonsure. Notre très cher frère, prions notre Seigneur Jésus-Christ pour ses serviteurs qui s'empressent par amour pour lui de se dépouiller de leur chevelure, qui leur donne le Saint-Esprit, qui leur donnera de conserver toujours le saint habit du clergé, défendra leur cœur des embûches, des embarras du monde et de tout désir séculier, afin qu'avec ce changement extérieur, sa puissance divine les fasse croître aussi dans la vertu, débarrasse leurs yeux de tout aveuglement de l'esprit et de la chair, et leur obtienne la lumière de la grâce éternelle. Ensuite, il leur dit, faites, ô Dieu Tout-Puissant, que vos serviteurs de nous venant de couper les cheveux pour votre divin amour demeurent toujours dans votre charité, et gardez-les à jamais exemptes de toute souillure. Donc, si c'est un religieux, par exemple un dominicain, la tonsure est complète. C'est-à-dire, on garde une couronne de cheveux autour de la tête qui rappelle la couronne de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le clergé séculier, on ne porte pas la tonsure en France. Monseigneur Lefebvre nous avait demandé de ne pas la porter avec raison, surtout à cause des persécutions. Et à cause du fait qu'on vit dans un monde complètement pourri. Supposer qu'on ait à se cacher d'un seul coup parce que, ben parce que la plupart qui sont ouvertes arrivent, et bien si on a une tonsure, qui est à peu près un cercle à peu près de 4-5 cm de diamètre sans cheveux au sommet du crâne, on est repéré immédiatement. C'est pour ça qu'on n'apporte pas, c'est pas la coutume de l'apporter en France. Les religieux l'apportent dans leur monastère. Ensuite, donc, avec la tonsure qui donne le titre de monsieur l'abbé, qui fait rentrer dans la cléricature, et en général en même temps la prise de soutane, et le surplis est donné. Surplis, c'est une aube courte qui tombe jusqu'au rein, et qu'on utilise, tous les prêtres utilisent pour donner les sacrements. Donc en fait, on bénit quelque chose, on utilise le surplis et l'étole. Donc le surplis est utilisé par tous les séminaristes, même quand qui sont pas dans les ordres majeurs, pour recevoir la Sainte Eucharistie. Donc, voilà ce que dit le prêtre ou l'évêque qui impose le surplis. Exaucez nos prières, Seigneur, et daignez répandre vos bénédictions sur vos serviteurs, à qui nous allons imposer en votre nom béni le saint habit du clergé, afin qu'aidés par votre grâce, ils continuent à servir votre Église avec piété et mérite d'obtenir la vie éternelle. Que le Seigneur vous revête de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la vraie justice et la vraie sainteté. Dieu Tout-Puissant, Éternel, pardonnez-nous nos péchés, purifiez ses serviteurs de tout esclavage de l'habit du siècle, afin qu'en dépouillant l'ignominieuse, livrée du monde, ils jouissent à jamais de votre grâce, et que cette couronne que nous leur avons tracée sur la tête à l'image de la vôtre leur vaille par votre grâce d'acquérir dans leur cœur l'héritage de la couronne éternelle. Mes très chers fils, remarquez bien que vous entrez aujourd'hui dans le fort de l'Église et que vous avez part au privilège des clercs. Soyez donc attentifs à ne pas les perdre par votre faute, mais en contraire par un extérieur décent, comme par des mœurs et des œuvres saintes, appliquez-vous à plaire à Dieu qui daigne lui-même vous l'accorder. Ça, c'est ce qu'on appelle la tonsure. Encore une fois, la tonsure n'est pas un ordre. Ça, j'en parle maintenant. C'est une introduction aux ordres. C'est parvis, si vous voulez, qui mène aux sept ordres mineurs et majeurs. Alors. Donc Saint Thomas explique d'abord, donc on est dans l'article 2 de la question 37 du supplément, que les ordres de l'Église sont établis en vue des fonctions hiérarchiques. Encore une fois, il n'y a pas d'égalité dans l'Église, je l'ai déjà expliqué souvent. Celles-ci sont seulement nombre de trois, à savoir purifier, illuminer, perfectionner. Division d'après laquelle Denis distingue trois ordres. Donc trois choses à faire, purifier, illuminer, perfectionner. C'est donc le but des différents ordres. Le sacrement de l'ordre a pour fin le sacrement de la Sainte Eucharistie, le sacrement des sacrements. C'est-à-dire, tous les ordres tournent autour de la Sainte Eucharistie. Plus on monte dans la hiérarchie des ordres, plus on a de pouvoir sous la Sainte Eucharistie. On trouvera donc la distinction des ordres dans leur rapport avec la Sainte Eucharistie. Le pouvoir d'ordre, en effet, dit Saint Thomas, a pour objet ou la consécration de la Sainte Eucharistie elle-même, ou quelques fonctions relatives au sacrement de la Sainte Eucharistie, par exemple une fonction relative à la Sainte Messe. Dans le premier cas, la consécration, c'est l'ordre des prêtres. Aussi, à leur ordination, reçoivent-ils le calice avec le vin, la patène avec le pain, recevant le pouvoir de consacrer le corps et le sang du Christ. Bon, j'ai déjà expliqué que depuis Pie XII, il a été défini maintenant, ex cathedra, que la matière du sacrement de l'ordre, n'était plus la porction des instruments, mais l'imposition des mains. Le ministre prête son concours au prêtre, donc ça c'est les ministres en dessous, donc le diacre. Le ministre prête son concours au prêtre dans la disposition du sacrement, mais non dans sa consécration réservée au prêtre seul. Tel est l'office du diacre. Donc, le diacre a déjà beaucoup de pouvoir. Il ne peut pas consacrer la Sainte, il peut pas célébrer la Sainte Messe, bien sûr. Il ne peut pas confesser les péchés. Il ne peut pas absoudre, mais il peut baptiser. Il peut témoin d'un mariage. Il peut enterrer, il peut chanter l'évangile à la messe solennelle, il est évidemment tenu par la chasteté et son bréviaire comme les sous-diacres. Il peut également, c'est très important, distribuer la Sainte Communion. Moi, j'ai eu la grande grâce de pouvoir distribuer la Sainte Communion comme diacre dans 78 ou 79, je ne sais plus. Donc, j'ai pour la, c'était 25 décembre 78, j'ai été envoyé par la fraternité pour aider un vieux prêtre dans le nord de la France, s'appelait l'abbé Montgomery White, un anglais qui est mort depuis longtemps maintenant. Il y avait tellement de monde à sa messe de minuit qu'il avait demandé de l'aide pour qu'on vienne l'aider à distribuer la communion. Il était très âgé. Et donc j'y suis allé. Pour la première fois, j'ai touché le Saint-Sacrement avec mes doigts. Donc le prêtre, Le diacre a le pouvoir de distribuer la Sainte Communion, mais seulement dans les cas exceptionnels. D'accord? Alors, je vous donne rapidement les prières principales du diaconat. Je ne vais pas toutes les lire parce que c'est beaucoup trop long, mais il y en a qui, il y en a certaines qui sont vraiment splendides. Donc, l'évêque va expliquer le rôle du diacre, que saint Thomas donne les explications sur les ordres en partant du haut, donc d'abord du diaconat. Très cher fils, réfléchissez sérieusement à quelle éminente dignité de l'Église vous allez être préélevé, car le diacre doit servir à l'autel, baptiser, prêcher. Donc le diacre peut prêcher, mais pas sans l'accord du curé. Donc il a l'accord du curé. Alors, voilà, j'ai pas le temps encore une fois de vous donner toutes les prières, je vous donne les principales qui sont splendides. Recevez, on va dire, l'évêque. Il y a déjà une première imposition des mains avec une seule main. Et l'évêque va dire, recevez l'Esprit Saint qui sera votre force pour résister aux démons et à ses tentations au nom du Seigneur. Et ensuite, l'évêque continue en disant, répandez sur ces diacres, nous vous en supplions Seigneur, votre Esprit Saint qu'il les réconforte par les 7 dons de la grâce pour qu'ils remplissent avec fidélité votre ministère. Que toutes les vertus abondent en eux, une autorité pleine de modestie, une pudeur qui ne se démente jamais, l'innocence la plus pure, le zèle pour le maintien de la discipline spirituelle, que vos commandements rayonnent dans leurs mœurs, afin que le peuple s'attache à imiter l'exemple de la chasteté de leur vie. Faites qu'ayant toujours le témoignage d'une bonne conscience, ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ, et que par leur fidélité dans l'ordre inférieur, ils méritent par votre grâce d'être élevés à une plus haute dignité par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Les prières sont magnifiques, nous rappellent à quel point vous, les fidèles qui m'écoutez, là, vous devez prier pour vos prêtres. À quel point on est loin de la sainteté qu'on devrait avoir, en tout cas pour moi en tout cas. Et nous avons un besoin des prières des fidèles pour être à la hauteur de notre charge. Donc ensuite, l'évêque va imposer le symbole du diacre, l'étole. Donc le diacre va porter l'étole en diagonale. Alors que le prêtre porte l'étole croisée sur la poitrine et l'évêque droite parce qu'il a la plénitude du sacerdoce. Recevez l'étole blanche de la main de Dieu, remplissez votre ministère, car Dieu a la puissance d'augmenter en vous sa grâce, lui qui vit et règne dans tous les siècles des siècles. Que le Seigneur vous revête de ses vêtements de salut et de joie et soyez toujours entourés de la dalmatique de la justice au nom du Seigneur. Dalmatique, c'est aussi le symbole du diacre pour la messe solennelle. Exaucez vos prières, Seigneur, nos prières, Seigneur, et répandez vos bénédictions sur vos diacres, afin qu'enrichis du don céleste, ils puissent plaire à votre majesté et donner au peuple l'exemple d'une sainte vie. Seigneur saint, auteur de la foi, de l'espérance et de la charité, daignez répandre les effets de votre amour sur vos serviteurs ici présents, afin que, d'une docilité parfaite à vos ordres, ils deviennent de plus en plus vertueux ministres de vos saints autels. Faites qu'affermis dans la chasteté par votre grâce, ils soient dignes de cet ordre, auquel les apôtres, inspirés par le Saint-Esprit, élevèrent 7 des premiers disciples sous la direction et la conduite du bienheureux Étienne, que formés à toutes les vertus nécessaires à votre service, ils aient le bonheur de vous plaire. Voilà pour le diaconat, donc l'ultime étape avant le sacerdoce. L'échelon en dessous, donc c'est le sous-diaconat. Le ministère, dit saint Thomas, dont la fonction est de préparer la matière du sacrement dans les vases sacrés destinés à la contenir. C'est l'office des sous-diacres. Donc le sous-diacre peut déjà toucher les calices et la patène. Alors, le sous-diaconat n'est pas d'ordre divin, d'institution divine directement parlant, mais d'institution ecclésiastique. Il a été rangé parmi les ordres majeurs à partir du pontificat d'Innocent III au XIIIe siècle. Alors, voilà le rôle du sous-diacre. Ce que dit le prêtre. Considérez, dit l'évêque au sous-diacre, au moment d'être promis à l'ordre sacré de sous-diaconat, considérez mûrement quel fardeau vous demandez aujourd'hui. Jusqu'à cette heure, vous êtes libre et vous pouvez encore choisir à votre gré une situation dans le monde. Mais si vous recevez cet ordre, vous ne pourrez plus jamais sur votre engagement, revenir sur votre engagement et vous serez à jamais attaché au service de Dieu que d'ailleurs servir, c'est régner. Donc le sous-diaconat, c'est l'entrée dans l'éternité déjà. Un sous-diacre, il est diacre pour toute l'éternité, sous-diacre pour toute l'éternité. Il ne peut plus revenir en arrière, c'est impossible. Il peut rester sous-diacre toute sa vie, mais il ne peut plus revenir en arrière. Il est définitivement tenu par le vœu de chasteté et par l'obligation du bréviaire sous peine de péché mortel. Pour chaque page du bréviaire, il y a l'obligation, pour chaque petite heure du bréviaire, l'obligation sous peine de péché mortel. Ensuite, l'évêque va lui dire, il vous faudra, avec son aide, l'aide de Dieu, garder la chasteté, demeurer attaché pour toujours au service de l'Église. Ainsi, tandis qu'il est encore temps, pensez-y. Et si vous persistez à votre sainte résolution, au nom du Seigneur, avancez ici. À ce moment-là, tous les futurs sous-diacres avancent d'un pas en disant, Libenter, oui, j'accepte. Et ce pas en avant, devant l'évêque, symbolise le vœu de chasteté. Donc, ensuite, je ne lis pas encore une fois toutes les prières, je vous lis certaines parties. Au moment de recevoir l'ordre du sous-diaconat, leur dit l'évêque, « Mes très chers fils, considérez attentivement quel ministère vous est confié. Ce sous-diacre a préparé l'eau pour le sacrifice de l'autel. Assistez le diacre, lavez les pâles et les corporaux, présentez au diacre le calice et la patène pour la messe. » Donc, à ce moment-là, l'évêque fait toucher à chaque ordinant le calice, consacré avec la patène, et il va dire en même temps, voyez quel ministère vous est confié, aussi je vous avertis de vous montrer tel que vous puissiez plaire à Dieu. Et il fait toucher à ce moment-là aux ordinants les objets qu'ils vont devoir utiliser comme sous-diacre. Donc, voilà certaines des prières. Prions Dieu, notre Seigneur, mes très chers frères, de répandre sa bénédiction, sa grâce sur ses serviteurs, afin que par leur fidélité à servir en sa présence, ils obtiennent les récompenses réservées aux saints, avec l'aide de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans les siècles des siècles. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, daignez bénir vos serviteurs, placez-les dans votre auguste sanctuaire pour être les sentinelles intrépides et vigilantes de la milice céleste, afin qu'ils servent fidèlement à votre saint autel. Que l'esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de science et de piété et de crainte de Dieu repose sur eux et les remplisse. Confirmez-les dans votre divin ministère, afin qu'obéissant et docile dans leurs paroles et dans leurs actes, ils obtiennent votre grâce par Jésus-Christ notre Seigneur. Et donc, ils vont ensuite recevoir la tunique et tunicelle, donc la tunique qui est le signe du sous-diacre pour la messe solennelle. Que le Seigneur vous revête de la tunique de l'allégresse, vêtement de joie. Ensuite, il lui fait toucher le livre des épîtres, puisqu'ils ont le droit maintenant de chanter l'épître à la messe solennelle. Recevez le livre des épîtres. Ayez le pouvoir de les lire dans la Sainte Église de Dieu pour les vivants comme pour les défunts, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pour le sous-diaconat. Alors, ensuite, donc, en suivant l'ordre de saint Thomas, donc saint Thomas, c'est un peu spécial, mais il commence par le haut. Il aurait été peut-être plus logique de commencer par le bas, moi, pour les explications, mais je suis saint Thomas, donc j'ai commencé moi aussi par le haut. Ensuite, il y a les quatre ordres mineurs. Il y a les quatre ordres qui sont sous le sous-diaconat et qui n'obligent pas une consécration définitive. Donc, même quelqu'un qui a reçu les quatre ordres mineurs a le droit de quitter le séminaire et de reprendre la vie active, la vie dans le monde. Alors, il y a quatre ordres mineurs, portiers, lecteurs, exorcistes, acolytes. Donc, voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin sur l'acolyte. Le ministère dont il a le rôle est de présenter la matière du sacrement, celui de l'acolyte, sacrement de la Sainte Eucharistie. Il garnit les burettes de vin et d'eau, et à son ordination, il reçoit une burette vide. Alors, voilà les principales prières de l'acolyta. L'acolyte, dit l'évêque, doit porter le chandelier, entretenir le luminaire de l'église, préparer le vin et l'eau pour la messe. Donc l'acolyte sert officiellement la messe de l'évêque. Recevez le chandelier avec le cierge et sachez que votre fonction d'allumer les lumières de l'église au nom du Seigneur. Recevez la burette afin de présenter l'eau et le vin pour le sacrifice du sang du Christ au nom du Seigneur. Et ensuite, vous avez toutes ces prières magnifiques. Mes très chers frères, prions instamment Dieu le Père Tout-Puissant de daigner bénir ses serviteurs afin que, portant la lumière visible dans leurs mains, ils fassent briller dans leurs mœurs la lumière spirituelle par la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur Saint, Père éternel, Tout-Puissant, Dieu éternel, qui par votre Fils, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, par ses apôtres, avez répandu dans ce monde les rayons de votre lumière et qui, pour déchirer l'antique décret de mort porté contre nous, avez voulu que ce divin Fils fût attaché à cette très glorieuse croix et répandit son sang et l'eau de son côté pour le salut du genre humain, daignez bénir ses serviteurs afin qu'ils soient fidèles à entretenir le luminaire de l'Église et à présenter à l'autel le vin et l'eau qui doivent servir au sacrifice du sang de Jésus-Christ, votre Fils. Éclairez leur esprit, Seigneur, enflammez-les, leur cœur de votre amour, afin qu'illuminés par le rayonnement de la splendeur de votre face, ils vous servent fidèlement dans la Sainte Église. Daignez bénir ses serviteurs et en faire des acolytes de votre Église. Dieu Tout-Puissant, source de lumière et principe de bonté, qui par Jésus-Christ, votre Fils, lumière véritable, avait illuminé le monde et l'avait racheté par le mystère de sa passion, daignez bénir vos serviteurs, ses acolytes, éclairez leur esprit de la lumière de votre divine science et fécondez leur cœur de la rosée de votre amour, afin qu'avec votre secours ils remplissent si bien le ministère qu'il leur est confié qu'ils se rendent dignes d'en recevoir la récompense éternelle. Ensuite, on descend encore d'un cran, c'est l'office de portier. Non, pardon, je me trompe, l'office d'exorciste. L'exorciste d'abord. Donc voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin sur les exorcistes. Il y a des fidèles instruits de leur foi qui sont paralysés par le pouvoir du démon. Ce sont les énergumènes pour lesquels est institué l'ordre des exorcistes. Alors, en quoi consiste cet exorcista? Donc, l'exorcista donne déjà aux jeunes séminaristes donc un pouvoir sur les démons, mais c'est un pouvoir qui est lié. Dans la pratique, l'évêque seul ou ses délégués exorcisent solennellement. Mais l'exorcista donne aux jeunes séminaristes déjà le pouvoir, par exemple, de prononcer certains exorcismes privés avec beaucoup plus de force. Par exemple, le petit exorcisme de Saint-Michel. L'exorciste, dit l'évêque, doit chasser les démons, dire au moment de l'offertoire aux fidèles qui ne communient pas de se retirer, verser l'eau du sacrifice. Donc il fait toucher ensuite le livre des exorcismes aux jeunes séminaristes en disant, recevez ce livre, gravez-en les formules dans votre mémoire et ayez le pouvoir d'imposer les mains sur les énergumènes, soit baptisés, soit catéchumènes. Et ensuite, dernière prière, Seigneur Saint, Dieu Père Tout-Puissant, Dieu Éternel, daignez bénir ses serviteurs afin que par l'imposition de leurs mains les paroles des exorcismes, ils aient le pouvoir et la force de réprimer les esprits immondes, qu'ils soient dans votre Église les médecins expérimentés, favorisés par la grâce des guérisons et les forces d'en haut. Alors, on continue de descendre, lectorat. Donc, en haut, épiscopat, puis sacerdoce, le prêtre, puis sous-diacre, puis acolyte, puis exorciste, et maintenant lecteur. Alors, le lecteur, dit saint Thomas, va s'adresser surtout à ceux qui veulent croire mais qui ne sont pas encore instruits, c'est-à-dire que les catéchumènes. Et leur enseignement est préposé l'ordre des lecteurs. Ils sont donc chargés de leur lire les premiers rudiments de la foi, à savoir l'Ancien Testament. Donc c'est au lecteur, strictement parlant, quand il le peut, expliquer un peu le catéchisme aux enfants. Oui. Donc voilà cette prière. Le lecteur doit lire pour celui qui prêche, chanter les leçons et bénir le pain et tous les fruits nouveaux. Là, c'est un détail qui était très important pour nous séminaristes. Quand j'étais simple séminariste, je me rappelle quand j'ai reçu le lectorat, donc c'était en 75, eh bien, j'étais tout fier justement pour bénir les fruits nouveaux. Et donc le lecteur peut vraiment, de façon plus efficace encore, bénir la table. C'est le lecteur qui bénit la table. Quand il n'y a personne d'un ordre plus élevé à côté de lui, il bénit la table et ça devient vraiment un sacrement de table. Et on associe aussi aux fruits nouveaux les bébés. Là, moi, j'étais tout content comme lecteur de pouvoir bénir les bébés. Si je voyais un bébé, je vais le bénir comme lecteur parce que j'avais le droit de bénir les bébés. J'étais tout fier de ça. Alors voilà la collation de l'ordre. Recevez ce livre, le livre des lectures, et soyez attentifs, lecteurs de la parole de Dieu. Si vous remplissez fidèlement et utilement votre charge, vous aurez part à la récompense promise à ceux qui furent les ministères de l'Évangile. Prions le Dieu Tout-Puissant de répandre sa bénédiction sur ceux qu'il a daigné placer dans l'ordre des lecteurs afin qu'ils lisent distinctement dans l'Église et la mettent en pratique. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, bénissez ces lecteurs afin qu'instruits et formés par l'assiduité aux saintes lectures, ils disent ce qu'il faut faire et accomplissent eux-mêmes ce qu'ils disent et rendent ainsi, se rendant ainsi doublement utiles à l'Église. Alors, première étape, en dessous du lecteur, c'est l'ostéria, hein, le portier. Alors, voilà ce que dit saint Thomas. Le lecteur, son rôle, c'est de s'occuper de ceux qui refusent de croire et qui sont infidèles. Ceux-ci doivent être absolument écartés de l'assistance au mystère et de l'assemblée des fidèles, ce soit imparti en portier. Donc le portier était à la porte avant de l'église et n'acceptait, éloigner les gens qui étaient indignes, les infidèles notoires par exemple. Le portier était aussi celui qui faisait sortir les catéchumènes qui avaient le droit de rentrer dans l'église au début et qui devaient sortir après la prédication. Bon, ces règles de l'ancien de l'église primitive ont disparu aujourd'hui. Un catéchumène, même un païen, a le droit d'assister à la messe, condition qu'il n'y ait pas de scandale, et a le droit d'assister à la sainte messe et d'écouter dessus la cérémonie. Alors, donc, le portier, on appelle l'ostéria, hein, voilà la prière de l'évêque, le portier doit sonner les cloches, ouvrir l'église et la sacristie, tenir le livre ouvert devant celui qui prêche. Vous devrez donc veiller à ce que rien dans l'église ne se détériore par votre négligence et ayez soin d'ouvrir aux fidèles la maison de Dieu aux heures fixées, en la tenant toujours fermée aux infidèles. Et de même qu'avec les clés matérielles, vous ouvrirez et fermerez l'église visible, de même, efforcez-vous par vos paroles et vos exemples de fermer aux démons et d'ouvrir à Dieu les temples invisibles, c'est-à-dire les cœurs des fidèles, afin qu'ils gardent et mettent en pratique les divines paroles qu'ils ont entendues, que le Seigneur vous l'accorde dans sa miséricorde. Et donc, il va faire toucher à celui qui va être ordonné portier la clé de l'église. Agissez comme devant rendre compte à Dieu de tout ce qui est enfermé sous ce clé. Ensuite, le portier va ouvrir et fermer la porte de l'église. Puis il revient. Pour entendre la dernière prière, les dernières prières, mes bien chers frères, supplions Dieu, le Père Tout-Puissant, de bénir ses serviteurs qu'il s'est choisi pour remplir d'office l'office de portier, afin qu'ils soient les très fidèles gardiens de la maison de Dieu et convoquent le peuple de Dieu le jour comme la nuit aux heures marquées pour invoquer le nom du Seigneur. Dédié, bénir ses serviteurs, afin que, reçus parmi les gardiens de votre Église, ils ne méritent pas leur obéissance à vos ordres, la récompense que vous destinez à vos élus. Voilà donc tous les ordres passés en revue, sauf le sacerdoce, donc le sacerdoce qui est tout en haut. Ces ordres dont je viens de parler sont des préparations au sacerdoce. Donc la tonsure, qui est en quelque sorte une introduction aux ordres, puis portier, lecteur, acolyte, exorciste, les quatre ordres mineurs, puis les trois ordres sacrés, le sous-diaconat, le diaconat et le prêtre. Alors, je n'ai pas le temps de vous lire toutes les prières du sacerdoce, elles sont splendides. Je vous lis au moins la prière de consécration. Attendez que je retrouve ça. Alors, pour le sacerdoce. Donc, je vous rappelle qu'avec la définition du pape Pie XII, la matière du sacrement de l'ordre, c'est l'imposition des mains. Ce n'est plus la correction des instruments, qui a toujours lieu, mais qui n'est pas matière. La matière, c'est l'imposition des mains. Donc, voilà ce que va dire. Je vais simplement lire les parties principales pour le presbytérat. Voilà ce que dit l'évêque avant de les ordonner. Vous qui allez être consacrés prêtres, appliquez-vous à recevoir dignement cette charge, et après l'avoir reçue, à vous en acquitter comme il convient. C'est au prêtre d'offrir, de bénir, présider, prêcher, baptiser. C'est avec une sainte frayeur qu'il faut monter à un si haut degré, vous souvenant que ceux qui y sont appelés doivent se distinguer par une sagesse toute céleste, des mœurs pures et une longue pratique de la vertu. Et encore bien le travail pour les bénéfices. Priez bien pour moi. Appliquez-vous donc à être tel que vous deveniez, par la grâce de Dieu, des dignes coopérateurs de Moïse et des apôtres, c'est-à-dire les évêques catholiques figurés par eux. Considérez l'acte que vous posez, imitez le sacrifice que vous opérez. Célébrant le mystère de la mort du Seigneur, attachez-vous à mortifier votre chair avec tous ses vices et toutes ses convoitises. Que votre enseignement soit pour le peuple de Dieu le remède des âmes, que la bonne odeur de vos vertus réjouisse l'Église de Dieu, que votre parole et votre exemple édifient la maison, c'est-à-dire la famille de Dieu, en sorte que, un jour, nous ne soyons pas, nous, évêques, condamnés par le Seigneur pour vous avoir admis un si grand ministère, ni vous pour l'avoir reçu, mais qu'au contraire, nous puissions être récompensés, que le Seigneur lui-même nous l'accorde par sa grâce. Et donc, la formule consécratoire est la suivante. Nous vous supplions, Père Tout-Puissant, donnez à vos serviteurs la dignité du sacerdoce, renouvelez en leur cœur l'esprit de sainteté, afin qu'ils soutiennent avec honneur cette dignité qu'ils reçoivent de vous et qu'ils censurent les mœurs du siècle par l'exemple de leurs vertus. Donnez-leur de devenir de dignes coopérateurs de notre ministère, que toute justice brille en eux, afin qu'au jour où ils devront rendre compte de leur administration, ils obtiennent les récompenses de la béatitude éternelle par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Donc ensuite l'évêque va rappeler la fonction du prêtre, avec une magnifique prière. Ô Dieu, auteur de toute sanctification, qui seul donnait la vraie consécration à la pleine bénédiction, bénissez vous-même, vos serviteurs, que nous élevons à l'imminente dignité de prêtre, que la gravité de leurs mœurs et leur vie irréprochable révèle en eux des vieillards, des sages formés à cette discipline. Que nuit et jour, méditant votre loi, ils croient ce qu'ils lisent, enseignent ce qu'ils croient, pratiquent ce qu'ils enseignent. Quel beau texte! Croire ce que nous lisons, enseigner ce que nous croyons, pratiquer ce que nous enseignons. Que la justice, la constance, la miséricorde, la force et toutes les vertus brillent en eux et se manifestent dans leur exemple et dans leurs paroles. Qu'ils gardent pur et sans tache ce caractère sacerdotal. Qu'ils opèrent pour le salut de votre peuple et par la sainte bénédiction la transsubstantiation du pain et du vin au corps et au sang de votre divin Fils. Donc il y a une première imposition des deux mains de l'évêque, ensuite la prière consécratoire, donc ils sont déjà prêtres, avec le pouvoir déjà d'offrir le sacrifice pour les vivants, pour les morts. Donc l'évêque va ensuite consacrer la paume des mains et l'intérieur des doigts du nouveau prêtre avec l'huile des catéchumènes, l'huile du Saint-Crème étant réservée à l'évêque. Daignez Seigneur, consacrez, sanctifiez ses mains par la présente onction et notre bénédiction. Alors, afin que tout ce qu'elles béniront soit béni, que tout ce qu'elles consacreront soit consacré et sanctifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Et à la fin de la messe d'ordination, donc, il va y avoir une autre imposition des mains. Et l'évêque va donner à ce moment-là au jeune prêtre le pouvoir de pardonner les péchés. Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Alors il donne également les vêtements sacrés. Donc le diacre portait, je vous l'ai déjà dit, l'étole en diagonale à travers la poitrine. Donc maintenant qu'il est prêtre, l'évêque va décroiser l'étole et la croiser sur la poitrine, devant. Recevez le joug du Seigneur, car son joug est doux et son fardeau léger. Et ensuite il lui remet la chasuble. Recevez le vêtement sacerdotal qui désigne la charité, car Dieu peut augmenter en vous la charité et la perfection de vos œuvres. Et ensuite, les dernières prières qui sont très belles. Comme les mystères que vous devez célébrer offrent des difficultés, je vous avertis, mes fils bien-aimés, de vous faire instruire par les prêtres expérimentés sur les rites de toute la messe, sur la consécration, la fraction de l'hostie et la communion, avant de monter vous-même à l'autel. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous, afin que vous soyez bénis dans l'ordre sacerdotal, que vous offriez pour les péchés et les offenses du peuple, des hosties agréables, ô Dieu Tout-Puissant, à qui revient honneur et gloire dans tous les siècles des siècles. Voilà, c'est comme ça qu'on devient prêtre. Et ensuite, après la messe, donc c'est la tradition, le jeune prêtre qui garde ses mains bien jointes va aller d'abord bénir ses parents. Première bénédiction toujours pour les parents. Et moi dans les familles catholiques. Il va bénir ses parents et ensuite bénir tous ceux qui veulent venir se faire bénir par lui. Voilà, donc nous avons vu rapidement tous les différents ordres. Alors continuons avec saint Thomas, question 37, article 3. Doit-on distinguer entre les ordres sacrés et les ordres non sacrés? Je vous rappelle, les non sacrés, c'est les ordres mineurs, portiers, lecteurs, acolytes, exorcistes, les ordres sacrés, sous-diaconat, diaconat, sacerdoce. Donc les ordres sacrés, dit saint Thomas, empêchent de contracter mariage et annulent le mariage déjà contracté. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre, ce sont des ordres qui sont joints au vœu de chasteté. Or, les quatre ordres inférieurs, les ordres mineurs, n'ont pas ce double effet. Ce ne sont donc pas des ordres sacrés. Il y a donc une distinction, ordre sacré et ordre non sacré. On ne compte donc, dit saint Thomas, que trois ordres sacrés, le sacerdoce, le diaconat, dont les actes ont pour objet le corps du Christ et le sang consacré, enfin le sous-diaconat, dont l'acte a pour objet les vases consacrés. C'est pourquoi la continence, la chasteté leur est imposée, afin que soient purs ceux qui touchent aux choses saintes. Alors, est-ce que le livre des sentences, c'est le livre de Pierre Lombard, donc qui était le grand livre de théologie du Moyen-Âge, avant saint Thomas, assigne-t-il justement sa fonction à chaque ordre? C'est l'article 4 de la question 37 du supplément. Alors voilà ce que dit saint Thomas. La supériorité d'un ordre sur un autre provient de ce que sa fonction est ordonnée de plus près au sacrement de l'Eucharistie. Plus on rentre dans les ordres, plus on se rapproche de la Sainte Eucharistie. Aussi est-il acceptable que chaque ordre, outre sa fonction principale, en compte plusieurs autres, et d'autant plus qu'il est plus parfait, car plus haute est une activité, plus large est son domaine. Alors là, j'ai vu un peu tout ça. Le caractère sacerdotal s'imprime-t-il à la porrection du calice? Donc là, on a déjà vu ça, porrection du calice, la porrection, ce qu'on appelle la porrection des instruments. C'était l'opinion au temps de saint Thomas, ça n'avait jamais été défini par l'Église. Donc cet article est aujourd'hui caduc, parce que saint Pie XII a donc tranché la question de façon infaillible, avec un jugement ex cathedra, en disant que la matière du sacrement de l'ordre, c'était l'imposition des mains. Donc saint Thomas disait, le pouvoir est donné au prêtre dès la porrection du calice. Donc à ce moment, le caractère est imprimé. Donc ça, c'est faux depuis Pie XII, puisque Pie XII a défini que c'était maintenant l'imposition des mains qui donnait ce caractère. N'oublions pas que saint Thomas n'est pas infaillible, puisqu'il n'est pas pape. Donc il y a eu une erreur là de saint Thomas, mais erreur qui correspondait à ce que croyait l'Église en son temps. Ça n'avait pas encore été défini. Alors voilà en même temps un petit peu question 38. Ceux qui confèrent le sacrement lui-même. Donc c'est l'évêque qui est l'unique ministre de ce sacrement. Voilà ce que dit saint Thomas. La consécration des vases sacrés est réservée à l'évêque, donc a fortiori la consécration des ministres sacrés, donc que seul l'évêque peut donner. Donc les abbés dans les monastères, dans certains monastères, ont le pouvoir de donner les ordres mineurs, portiers, lecteurs, acolytes, exorcistes, mais pas des ordres majeurs qui peuvent être donnés que par un évêque. Par la délégation du souverain pontife, dit saint Thomas, un simple prêtre pourrait aussi conférer les ordres mineurs et même confirmer, ce que personne ne pourrait cependant faire sans être prêtre. Donc le pape lui-même a le pouvoir d'accorder à un simple prêtre le pouvoir de confirmer. C'est exceptionnel, mais ça peut se faire si ça vient du pape lui-même. Et pas des évêques, contrairement à ce que raconte la fraternité Saint-Pédis. L'évêque n'a en soi pas le pouvoir de donner à un simple prêtre le pouvoir de confirmer. La confirmation est faite par l'évêque ou par un prêtre, par délégation spéciale du souverain pontife. De même, un prêtre ne peut conférer les ordres majeurs qui sont en rapport direct avec le corps du Christ, pour la consécration duquel le pouvoir du pape n'est pas supérieur à celui du simple prêtre. Donc un prêtre n'a aucun pouvoir pour conférer l'ordre, les ordres, par exemple, de sous-diaconat, de diaconat. Et bien sûr, il ne peut pas conférer le sacerdoce. Cependant, dans certains cas très particuliers, par délégation du pape, il pourrait conférer les ordres mineurs. Alors, des questions qui sont très importantes par les temps qui courent. Les hérétiques et les excommuniés peuvent-ils conférer les ordres? Alors voilà ce que dit saint Thomas. Un évêque tombé dans l'hérésie, après ses réconciliations, n'est pas de nouveau consacré. Il n'a donc point perdu son pouvoir antérieur de conférer les ordres. Ça, c'est important. C'est-à-dire que si un prêtre est ordonné prêtre par un évêque qui est dans l'hérésie, par exemple, et la personne qui reçoit le sacerdoce n'est pas au courant, c'est-à-dire intérieurement l'évêque est hérétique, mais ne le dit pas extérieurement, ou il est excommunié, mais personne ne le sait, eh bien, les ordinations conférées par cet évêque sont toujours valides, parce qu'il n'a pas perdu son pouvoir antérieur de conférer les ordres. Cependant, dit saint Thomas, celui-là pêche qui participe au sacrement avec un hérétique exclu de l'Église. Prenons un exemple tout simple pour faire comprendre. Imaginez un prêtre qui est perdu de mœurs, bon, malheureusement, qui vit avec une femme par exemple, et qui, il n'a absolument pas le droit de le faire, mais qui malheureusement continuerait de célébrer la Sainte Messe. Est-ce que vous avez le droit d'assister à sa messe? Non. Est-ce que sa messe est valide? Oui. À tel point que, en cas d'extrême urgence, un prêtre, même dans ces conditions-là, qui vivrait en concubinage avec une femme, garde toujours son pouvoir de prêtre. Et donc, en cas d'extrême urgence, cas de danger de mort, a même le pouvoir de pardonner les péchés. Il peut, à ce moment-là, sans faute, même s'il est excommunié, il peut pardonner les péchés en cas d'urgence, en cas de danger de mort. Donc, les évêques hérétiques ou excommuniés, dit saint Thomas, confèrent vraiment les sacrements, mais par ces sacrements, ils ne communiquent pas la grâce, non en raison de l'inefficacité des sacrements, mais à cause des péchés de ceux qui, par eux, les reçoivent malgré la défense de l'Église. Attention, quand il dit par ces sacrements donnés, les sacrements donnés par un évêque hérétique, ceux qui reçoivent les sacrements ne reçoivent pas la grâce. Cela vaut pour ceux qui vont volontairement demander les services spirituels d'un évêque hérétique ou excommunié. À son sacre, l'évêque reçoit un pouvoir inadmissible qui pourtant ne peut être appelé un caractère, car ce pouvoir ne l'ordonne pas directement à Dieu, mais au corps mystique du Christ. N'oubliez pas que l'évêque a une juridiction. Les hérétiques, donc communiés à la passion du Christ par la foi de l'Église, si par leur âme, en effet, ils ne lui appartiennent pas, cependant par le rite de l'Église qu'ils observent, ils se rattachent à elle d'une certaine façon. Donc n'oubliez pas que ici, l'âme de l'Église, quand saint Thomas parle de l'âme de l'Église, c'est la congrégation de tous les gens qui sont en état de grâce. Le corps de l'Église, c'est la congrégation de tous ceux qui sont baptisés. Alors, avançons, question 39, des empêchements à la réception de ce sacrement. Les empêchements, ce sont des portes qui se ferment, qui empêchent la réception, donc, du sacrement. Donc, article 1 du supplément, question 39, le sexe féminin est-il un empêchement à la réception de ces commandes de l'ordre? C'est très à la mode ça, beaucoup de féministes disent au nom de l'égalité, les femmes doivent pouvoir être ordonnées prêtres. On leur répond tout le temps, si le bon Dieu avait voulu que les femmes deviennent prêtres, la première personne qui l'aurait ordonnée serait sa mère. Or, il ne l'a pas fait. C'est pour cela qu'elle n'était pas là au soir du jeudi saint. Par contre, elle était là le jour du vendredi saint. Alors, saint Paul rapporte... Saint Thomas rapporte l'enseignement de saint Paul à Timothée, je ne permets pas à la femme d'enseigner dans l'église et de prendre autorité sur l'homme. C'est pas du tout par mépris pour la femme, mais chacun son travail. Un homme est incapable de mettre un enfant au monde et de l'élever correctement comme bébé, parce que c'est un travail qui est intrinsèquement lié au sexe féminin. On le voit bien en tant qu'homme, par exemple, on se marie en tant que prêtre pour un baptême, par exemple. Après le baptême, la maman est toute contente, son bébé vient d'être baptisé, elle prend son bébé, me dit, monsieur, tenez, prenez-le, on va vous prendre en photo avec le bébé. J'avais comment m'occuper d'un bébé, alors je prends le bébé, j'ai tellement peur qu'il tombe, qu'il se casse en deux et que je sois responsable des catastrophes, donc je porte le bébé en tremblant parce que un homme n'a pas dans sa nature humaine de fibre maternelle du tout, il ne sait pas comment s'occuper d'un bébé. Par contre, vous donnez un bébé à même une petite fille de 10 ans, elle s'occupe du bébé spontanément tout de suite parce qu'elle est mère. Elle est mère en puissance, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Donc, saint Thomas, pour revenir à notre question, donc la question, le sexe féminin est-il un empêchement à la réception du sacrement de l'ordre? Donc saint Thomas dit bien, une femme ne peut recevoir le sacrement de l'ordre. Les enfants et ceux qui sont privés de l'usage de la raison peuvent-ils recevoir les ordres? Alors, on permet, dit saint Thomas, parfois d'exercer un ordre à celui qui a été ordonné avant l'âge de discrétion, sans le soumettre à une réordination, ce qui ne serait pas si l'ordination n'avait pas été valide. L'enfant peut donc recevoir les ordres. Bon, ça, c'est des coutumes qui ont disparu, peut-être que c'est un bien. Avant, dans certains monastères, il y avait des enfants qui s'attachaient au monastère pour une bonne éducation. Ça, c'est très bon, par contre. Saint Thomas d'Aquin est rentré chez les bénédictins tout jeune, comme enfant, pour recevoir l'éducation. Donc il y avait des enfants de 10 ans qui déjà rentraient dans un monastère, pas de façon définitive, pour recevoir une instruction très complète de la part des moines. Ils avaient une formation extraordinaire dans les monastères et ils suivaient une partie de la vie liturgique avec les moines. Mais pas tous les autres, toutes les heures évidemment, ils n'avaient pas au milieu de la nuit pour aller chanter les matines, mais ils participaient déjà à certaines fonctions liturgiques. Il participait à certains offices, c'était excellent pour les enfants qui ont reçu au Moyen-Âge comme ça une formation extraordinaire et tout le monde est mis au même niveau. Le fils du prince, le fils du chevalier, le fils au contraire du manant, du simple laboureur, était mis exactement au même niveau. Et je vous assure que ça tournait à la baguette. C'était excellent. Donc saint Thomas explique. Donc à une certaine époque, les enfants pouvaient recevoir entre autres la tonsure, mais ce n'est plus du tout la coutume. Bon, il n'est pas normal, si vous voulez, qu'un enfant, encore enfant, reçoive la tonsure. Donc ce n'est pas encore clair, il est trop jeune pour ça. Donc, tous les sacrements dont la nature ne requiert pas d'acte de la part de leur sujet par lesquels un pouvoir spirituel est conféré peuvent être reçus par les enfants et les hommes privés de l'usage de la raison. En face d'une nécessité dans l'espérance d'un profit spirituel, des enfants peuvent donc sans péché être promis à la tonsure et aux ordres mineurs même avant l'âge de discrétion. Je viens de vous expliquer, celui-ci n'est plus la coutume. Et réellement, ils reçoivent l'ordre. Et quoi qu'ils ne soient pas encore capables de remplir les fonctions qui leur sont confiées, ils s'y préparent par l'accoutumance. Donc ça, c'est important de comprendre les raisons de saint Thomas. Bon, actuellement, ce n'est plus fait du tout, donc un enfant ne pourrait pas rentrer au séminaire. On n'accepte pas au séminaire quelqu'un qui n'a pas non seulement l'âge de raison, mais qui est devenu un adulte. Alors, des questions là, je passe rapidement là-dessus parce que ça correspond à une époque qui est révolue, le servage, l'époque où il y avait des serfs, qui n'étaient pas des esclaves, tout le monde, le serf était au service de son maître, qui avait des devoirs à l'égard de ses serfs, entre autres des devoirs de protection en cas d'invasion. Est-ce qu'un serf peut recevoir des ordres? Saint Thomas répond bien que le servage est incompatible avec la nature du sacrement. Donc, il va expliquer certaines choses. Alors, il y a des choses qui ne vont pas plaire du tout aux dames qui m'écoutent, mais aussi des choses magnifiques. Écoutez bien. La femme, en effet, ne peut recevoir le sacrement de l'ordre en raison de son état de sujétion. Pourquoi ? Parce que c'est son époux qui est chef de famille. Or, plus grande encore est la sujétion du serf. Car la femme n'est pas servante de l'homme. Aussi n'a-t-elle pas été créée au des pieds de l'homme. Ça, c'est magnifique. Donc, le serf, comme elle, ne peut pas recevoir le sacrement. Donc, celui qui est serf ne peut pas encore recevoir le sacrement parce qu'il n'est pas libre, en quelque sorte. Et là, saint Thomas a cette phrase que j'aime beaucoup. La femme n'est pas servante de l'homme. Écoutez bien les hommes qui m'écoutaient là, en ce moment, sur Internet. La femme n'est pas l'esclave de l'homme, attention. La femme est différente de l'homme, est complémentaire de l'homme, elle n'est pas l'esclave de l'homme. C'est pour ça qu'elle n'a pas été créée des pieds de l'homme. Dieu n'a pas pris un os des pieds d'Adam pour créer la première femme. Il a créé la première femme à partir d'une côte d'Adam. La côte, c'est près du cœur. Pour bien montrer que la femme sera le cœur de la famille. Ça, c'est magnifique. Donc, le serf, au contraire, qui n'est pas son propre maître, ne pourrait être élevé aux ordres. Si pourtant elle était ordonnée, l'ordination serait valide. Alors, il y a d'autres empêchements. Donc, je passe assez vite là-dessus parce que ce sont des histoires canoniques un peu spéciales. Donc, saint Thomas se demande par exemple si un meurtrier, si l'homicide est un motif d'écarter quelqu'un des ordres. Donc, tous les ordres, dit-il, sont en vue du sacrement de l'Eucharistie, qui est le sacrement de la paix, à nous mérité par l'effusion du sang du Christ. Donc, la loi interdit qu'un homicide soit promu aux ordres. Quelqu'un qui a tué quelqu'un qui a tué quelqu'un volontairement, hein, je ne parle pas d'un accident de voiture ou quelque chose comme ça, et ne peut pas être ordonné prêtre. Bon. La naissance illégitime aussi peut-elle être un empêchement à la réception de l'ordre? Il convient donc que la personne, donc voilà ce que dit saint Thomas, ceux qui sont promus aux ordres sont constitués en dignité au-dessus des autres. Il convient donc que leur personne soit entourée d'un certain éclat. La loi le requiert, dont la nature du sacrement. Leur réputation doit être intacte, leurs mœurs intègres. Ils ne doivent pas être sous le coup d'une pénitence publique. C'est pourquoi sont exclus des ordres, à moins d'une dispense, ceux qui sont nés d'un commerce illégitime. Donc un enfant illégitime, strictement parlant, ne peut pas rentrer au séminaire. Cependant, une dispense peut être accordée dans certains cas par l'évêque. Alors, est-ce qu'un défaut corporel peut empêcher la réception de l'ordre? Saint Thomas explique, ceux donc qui sont affligés de quelques défauts corporels sont écartés des ordres. Imaginez par exemple quelqu'un qui ne puisse pas prononcer correctement sa langue, qui bégaye constamment tout le temps. Il ne pourrait pas devenir prêtre. Pourquoi? Parce que, dit saint Thomas, il ne peut pas recevoir les ordres si ce défaut est tel qu'il dépare notamment leur personne ou fasse courir quelques risques dans l'accomplissement des fonctions ministérielles. Donc, dans les autres cas, un défaut corporel dépare l'empêchement. Quelqu'un qui aurait du mal à marcher, par exemple, jambe plus courte que l'autre, par exemple, à cause d'un accident, pourrait devenir prêtre. Mais quelqu'un qui a une infirmité qui prête à sourire, qui prête à la moquerie, imaginez quelqu'un, par exemple, bon, qui n'a pas de nez, qui a un nez coupé par un accident, ne pourrait pas devenir prêtre. Justement, à cause de la dignité du sacerdoce. Cependant, encore une fois, surtout aujourd'hui, avec les progrès de la chirurgie plastique, beaucoup d'excuses peuvent être, beaucoup de dispenses peuvent être accordées. Alors, nous allons voir les dernières questions sur le sacrement de l'ordre, la question 40, des questions annexes. Alors, je vais aller très vite parce que c'est vraiment un petit peu des détails canoniques. En plus, c'est des choses que j'ai déjà expliquées en partie. Article 1, la question 40, est-ce que les clercs doivent porter la tonsure? Bon, la tonsure, je vous rappelle, c'est l'évêque qui coupe 5 mèches de cheveux en signe de consécration qui rend la personne claire. Elle devient membre de la cléricature. La couronne est le signe distinctif de la royauté. Elle convient donc à ceux qui sont voués au ministère divin. Je vous rappelle que la tonsure donne le droit au port de la soutane et non seulement au port de la soutane, mais au port aussi de la tonsure strictement parlant. Bien que la tonsure ne soit plus portée aujourd'hui, je vous l'ai déjà expliqué. Ce n'est pas simplement la soutane, c'est aussi le col romain, pour le prêtre séculier, ou les séminaristes qui se destinent au sacerdoce séculier, la soutane, le col romain et la ceinture. Soutane, symbole de la pauvreté. Col romain, symbole de l'obéissance. Un col en plastique, si vous voulez, blanc, qui va entourer tout le cou. C'est le symbole donc de l'anneau de l'esclave, donc le symbole de l'obéissance, et la ceinture, et qui est symbole de la vertu de chasteté. La couronne, dit saint Thomas, est symbole de la royauté, par sa forme circulaire de la perfection. Or, ceux qui sont voués au service de Dieu sont revêtus d'une dignité royale, sont tenus à une plus grande perfection de vertu. Il leur convient aussi, dit saint Thomas, en raison de l'ablation des cheveux à la partie supérieure de la tête, par la rasure indiquant que leur esprit ne doit pas être distrait de la contemplation des vérités divines par les occupations temporelles. À la partie inférieure, par la tonsure, pour signifier que leurs sens ne doivent plus être retenus par les plaisirs temporels. Donc c'est un symbole de consécration, même si ce n'est pas une consécration définitive. Je vous l'ai déjà dit, avant le sous-diaconat, un séminariste peut licitement quitter le séminaire pour une raison grave. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait cette coutume qu'on appelait les Nazaréens, qui se dépouillaient complètement de leur chevelure pour afficher leur mépris des biens temporels. Leurs cheveux n'étaient pas coupés cependant en forme de couronne, mais totalement rasés, car le temps n'était pas encore venu du sacerdoce royal et parfait. Alors, saint Thomas se pose la question aussi, à laquelle on a déjà répondu, la tonsure est-elle un ordre? Je vous ai dit, ce n'est pas un ordre, une préparation à l'ordre. Le fait de recevoir la tonsure entraîne-t-elle la renonciation au bien temporel? Alors, ce n'est pas encore le cas. Donc, le tonsuré a le droit, il doit déjà se préparer par un esprit de pauvreté à se couper un peu des choses matérielles, mais il a le droit encore d'avoir des biens propres. Les clercs peuvent donc conserver ce qu'on appelle les biens patrimoniaux. Des biens de famille, il a le droit de les conserver. Seul celui qui est sous vœu de pauvreté ne peut plus conserver ses biens patrimoniaux. Il doit se débarrasser de tous ses biens ou les donner à l'ordre à laquelle il appartient. Mais un prêtre séculier est sous un vœu de chasteté, une promesse d'obéissance, l'esprit de pauvreté, mais il n'est pas sous un vœu de pauvreté, donc il a droit de conserver des biens. Imaginez un prêtre qui a une certaine richesse de famille, il aurait le droit de conserver cet argent, mais évidemment, dans la façon dont il s'occupe de cette richesse auquel il a le droit, il doit faire très attention à garder l'esprit de pauvreté. Ce serait inadmissible qu'un prêtre se promène en voiture de grand luxe, par exemple, ou ait un rythme de vie, un style de vie tout à fait indigne du sacerdoce. Donc la possession des biens terrestres n'est pas en effet contraire au culte divin auquel les clercs sont voués, mais seulement l'excès de sollicitude à ces biens. Là, il y a une belle phrase de Saint Grégoire, « Est criminel l'attachement à la fortune, non la fortune. » Certains amis de notre Seigneur, par exemple Saint Lazare, avaient une certaine fortune. Le Seigneur refuse d'être part d'héritage en ce sens qu'il serait aimé à l'égal des autres biens au point que l'on place sa fin en Dieu et dans les biens terrestres à la fois. Cependant, il ne refuse pas cette part pour ceux que la possession des biens ne détourne pas du culte divin. Et si l'argent est un obstacle, le prêtre doit s'en débarrasser complètement. Donc, il faut faire attention à bien garder l'esprit de pauvreté. On a vite fait de scandaliser les gens par des imprudences de ce genre. Je me rappelle quand j'étais en Espagne, jeune prêtre, il y a longtemps, j'avais déjà, je ne sais plus combien j'avais, 10-15 ans de sacerdoce, j'étais en Espagne, j'étais supérieur d'Espagne à l'époque, dans la fraternité Saint-Pilice, et entre autres j'avais une mission à Barcelone, mais je n'avais pas de voiture à ma disposition à Barcelone, c'est une fidèle qui me prêtait sa voiture. J'étais très gêné parce que la voiture qu'elle me prêtait, c'est une Mercedes. J'étais extrêmement mal à l'aise, j'utilisais au minimum, vraiment quand je ne pouvais pas faire autrement, parce que je scandalisais évidemment les gens qui voyaient un prêtre au volant d'une Mercedes. Je vais toujours faire le signe, c'est pas à moi, c'est quelque chose qui me prêtait. Le pouvoir sacerdotal ne s'exerce que pour purifier et illuminer, tandis que le pouvoir épiscopal, au contraire, s'exerce encore pour perfectionner. Donc il y a un pouvoir épiscopal supérieur à l'ordre sacerdotal. Cependant, je vous l'ai déjà expliqué, il n'y a pas un sacrement particulier pour les évêques. C'est simplement la complétion, si vous voulez, la perfection du sacerdoce, la plénitude du sacerdoce. Donc saint Thomas explique, le prêtre exerce une double fonction, l'une principale, consacrer le corps du Christ, l'autre secondaire, préparer le peuple de Dieu à la réception de ses sacrements. Il a déjà dit ça. Le pouvoir du prêtre auquel ressortit la première fonction ne dépend d'aucune autre si ce n'est du pouvoir divin, tandis que celui qui commande à la seconde fonction a dépendance d'un pouvoir supérieur humain. Ce pouvoir supérieur humain dont il dépend, c'est l'évêque. On voit ainsi qu'au-dessus du pouvoir sacerdotal considéré dans sa fonction secondaire, non dans sa fonction principale, est requis le pouvoir épiscopal. Donc, le prêtre représente, si vous voulez, la figure du disciple, l'évêque est la figure de l'apôtre. Le prêtre est la figure du Christ, et l'évêque, c'est vraiment l'époux de l'Église dans toute sa splendeur. C'est pour ça qu'avant, les évêques, quand ils étaient nommés évêques dans un diocèse, étaient nommés évêques à vie. Même qu'il n'y a pas de divorce pour les gens mariés, l'évêque ne pouvait pas divorcer avec son église. Il était évêque à vie dans l'église dont il était évêque. Bon, c'était au début de l'église, c'était comme ça. Après, ça a été changé pour des raisons pratiques. Et on a parfois demandé à un évêque dans une certaine ville de devenir évêque d'une autre ville, en général plus importante. Donc, saint Thomas se pose la question de savoir si l'épiscopat est un ordre. Alors, voilà ce qu'il dit. Tout ordre converge vers le sacrement d'Eucharistie, puisque l'évêque n'a pas, vis-à-vis de ce sacrement, un pouvoir supérieur à celui du prêtre. À ce point de vue, l'épiscopat n'est pas un ordre. Alors, l'ordre, sacrement qui a pris un caractère, a une relation particulière avec le sacrement de la Sainte Eucharistie, dans lequel est contenu le Christ, puisque par le caractère, nous sommes configurés au Christ. Mais l'épiscopat n'est pas un sacrement particulier. Alors peut-on trouver dans l'Église, se demande saint Thomas, quelqu'un qui soit supérieur aux évêques? Et donc voilà ce que répond saint Thomas avec le concile de Constantinople. Nous confessons, conformément aux Écritures et aux définitions des canons, que le très saint évêque de l'antique Rome est le premier et le plus grand des évêques. Donc les évêques dépendent directement du pape, du souverain pontife, vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il reste quelques pages. Je vous les donne rapidement. Convenait-il que dans l'Église soient assignés des vêtements pour les ministres? Donc, voilà ce que dit saint Thomas. Les vêtements des ministres symbolisent les dispositions requises en eux pour traiter les choses divines. Quelques-unes de ces dispositions sont exigées chez tous les ministres. D'autres le sont chez les ministres supérieurs, qui sont moins nécessaires chez les inférieurs. C'est pourquoi certains vêtements sont communs à tous les ministres, tandis que d'autres sont réservés aux ministres supérieurs. Par exemple, le port de la mitre est réservé aux évêques. L'évêque a certains symboles, par exemple la mitre, l'anneau épiscopal, la crosse aussi, qui sont des symboles d'autorité, que n'ont pas les simples prêtres. Par contre, dans certains cas, l'abbé d'un monastère peut avoir le droit d'utiliser les mêmes symboles d'autorité. Quant au prêtre, lui, il porte l'étole, non sur les deux épaules en signe de la plénitude du pouvoir qui lui est concédé, non comme un ministre subalterne dans la dispensation de son crément. Aussi, son étole descend jusqu'aux pieds. Il revêt également la chasuble, symbole de charité, puisqu'il consacre le sacrement de charité, à savoir la Sainte Eucharistie. Les évêques donc portent des ornements nettement plus compliqués pour la messe solennelle, 9 ornements supplémentaires, les sandales, les bas, la ceinture, la tunique, la dalmatique, la mitre, les gants, l'anneau et la crosse, car ils ont 9 pouvoirs de plus que ceux-ci: l'ordination des clercs, la bénédiction des vierges, la consécration des pontifes, l'imposition des mains, la dédicace des églises, la déposition des clercs, la célébration des synodes, la bénédiction du Saint-Crème, la consécration des calices et des vases sacrés. Alors, saint Thomas explique que c'est des belles choses. Je vous lis un petit peu ce qu'il dit, c'est un peu pour, en conclusion de ce traité. Les sandales symbolisent la rectitude des démarches, les bas de l'évêque couvre les pieds, symbolise le mépris des biens terrestres. La ceinture qui fixe l'étole sur l'aube, l'amour de la vertu. La ceinture est aussi portée par le prêtre. La tunique, la persévérance. On lit que Joseph était vêtu d'une tunique qui lui descendait jusqu'aux talons. Or, les talons sont le symbole de l'extrémité de la vie. La dalmatique symbolise la libéralité dans les œuvres de miséricorde. Elle est aussi portée par le diacre. Les gants, la prudence dans l'action. La mitre, la science des deux testaments, parce qu'il y a 2 pointes dans la mitre. Et donc, elle a 2 cornes. La crosse, la sollicitude pastorale qui ramène les errants, ce qui figure la courbure du sommet, soutient les faibles, ce que signifie la tige, et stimule les tièdes, ce qui exprime la pointe inférieure. Une pointe pour stimuler les tièdes, la sollicitude pastorale pour ceux qui se trompent, qui sont dans le mauvais chemin, et la crosse, si vous voulez, qui représente le pouvoir de l'évêque. L'anneau symbolise les mystères de la foi qui unit l'Église au Christ. Les évêques sont les époux du Christ, tenant la place du Christ. Donc l'évêque a un anneau qui correspond à l'alliance de la personne qui est mariée, parce que l'anneau représente le mariage du prêtre avec son Église. Comme la religieuse, par exemple, après ses vœux définitifs, qui reçoit un anneau, parce qu'elle est mariée à l'Église, mariée à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc nous avons terminé le traité de l'ordre. Encore une fois, si vous voulez plus de renseignements sur l'ordre, n'hésitez pas à aller sur le site d'Anne Marie dont je m'occupe. Vous allez en section sur les sacrements, dans le catéchisme, la section catéchisme pour adultes, section sur les sacrements, et là vous avez une sous-section sur le sacrement de l'ordre, et vous avez toute une série de commentaires, cette fois-ci directement sur les catéchismes. Ici, je ne commente que la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Donc, nous avons terminé aujourd'hui le traité sur l'ordre. Et la prochaine fois, si Dieu veut, nous traiterons d'un nouveau traité, à savoir le traité sur le mariage. Traité du mariage, question 41 à 68. Encore une fois, je ne veux pas faire double emploi avec ce que j'ai déjà dit dans la partie du mariage concernant le sacrement. Donc, vous aurez aussi beaucoup de choses directement sur le site dans la partie des sacrements concernant le mariage. Là, on suivra simplement ce que dit saint Thomas d'Aquin sur ce sujet. Donc nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pélisse, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.